Chapitre 15. Le capitaine Winstanley avait conclu avec Mrs. Hawbuck la location du joli petit cottage situé sur la colline au-dessus de Beachdale. Le capitaine Hawbuck, un vieux marin retraité, dont cette habitation avait fait les délices, était dans la tombe et sa veuve avait hâte d'essayer avec ses enfants si la vie ne leur serait pas, en Belgique, moins coûteuse qu'en Angleterre. Le bon vieux Hawbuck avait fait d'une chaumière de laboureur une habitation bourgeoise aussi pittoresque que peu confortable. Des plafonds si bas qu'on les touchait du doigt, aux angles des pièces des cheminées si petites qu'elles ne chauffaient pas, un escalier en tire-bouchon, véritable casse-cou pour l'étranger qui s'y risquait. Ne parlons pas de la cuisine, ni des minuscules chambres à coucher placées immédiatement sous le toit. Mais vu du dehors, le cottage paraissait charmant. Si le vieux marin et sa famille avaient pu demeurer sur la route, la vue extérieure de la maison avec sa jolie véranda les eût récompensés de tout l'argent dépensé pour les améliorations qu'on y avait faites. Mais malgré l'exiguïté des chambres et en dépit de certaines médisances au sujet des cheminées auxquelles on reprochait de fumer, le capitaine Winstanley déclara que le cottage lui convenait parfaitement. « J'en aime la situation délicieuse, » disait-il en discutant les conditions dans la salle du café de Lyndhurst. « Je vous crois sans peine, » répondit M. Bill, le médecin du pays. « Elle vous convient pour descendre dans la vallée, n'est-ce pas ?» On voit par là que l'opinion du voisinage était déjà formée au sujet du capitaine et des motifs de son installation à Beachdale. Rien de tel qu'une petite commune pour découvrir les intentions d'un étranger. Le capitaine Winstanley établit ses quartiers à Beachdale Cottage, moins d'une semaine après le dîner de Mrs. Tempest. Il fit venir ses chevaux et se mit à chasser très sérieusement. À l'unanimité, ses deux chevaux de chasse furent déclarés fort mauvais. Mais il est étonnant comme un bon cavalier peut courir la campagne sur un cheval condamné par tout le monde. On ne pouvait nier les mérites du capitaine Winstanley comme cavalier. Son costume était d'une élégance irréprochable et il était toujours au premier rang. Un mois à peine après son installation dans le cottage de Mrs. Hawbuck, il s'était fait des amis dans toutes les directions. On l'eût cru né dans la forêt. Ses manières affables, sa distinction, son élégance à cheval, lui avaient gagné les sympathies de tous. Il n'avait en lui rien du débauché ni du libertin. Ses vêtements n'étaient pas imprégnés de l'odeur du tabac. Il était aussi exact à l'église tous les dimanches matins que s'il eût été un chef de famille forcé de donner le bon exemple. Et il savait à propos distribuer quelques florins ou quelques demi-couronnes. Moyen infaillible de se faire une popularité facile parmi les valets d'écurie et les gens de la basse classe. Ayant positivement affirmé à Violette son intention de rester veuve, Mrs. Tempest s'accordait le privilège d'être polie avec le capitaine Winstanley. Au moins deux fois par semaine, il venait prendre le thé et il dînait à l'abbaye quand les Scobble ou d'autres amis intimes y étaient invités sans cérémonie. Il escortait à peu près continuellement Mrs. Tempest et sa fille à leur retour de l'église le dimanche matin. Violette persistait à rester toujours une vingtaine de pas en arrière. Après avoir ramené Mrs. Tempest à l'église, il était tout naturel que le capitaine fût retenu à déjeuner. Et l'après-midi du dimanche étant une légitime occasion de flânerie, il était également tout naturel qu'il restât, sous prétexte de visite aux jardins ou aux serres, ou de causerie au coin du feu dans le salon. Et cela jusqu'à l'apparition de la théière de Mrs. Tempest. Quelquefois, les Scobble assistaient à ses déjeuners du dimanche. Quelquefois, il n'y avait aucun autre étranger. Violette, naturellement, se trouvait avec sa mère, mais, quoique présente, elle paraissait si loin par la pensée qu'un homme moins résolu que Conrad Winstanley eût songé à s'en aller. Un homme plus accessible à l'opinion du monde n'aurait pas pu vivre dans cette atmosphère d'antipathie. Mais le capitaine voulait dompter l'aversion de Miss Tempest, ou lui donner une double cause de le haïr. « Pourquoi ne chassez-vous plus ?» lui demanda-t-il un dimanche qu'ils faisaient ensemble le tour des écuries. Et après avoir admiré Arion, ce cheval doux comme un mouton à l'écurie, et vif comme un chat sauvage lorsqu'il était au dehors. « Parce que je n'ai plus personne avec qui il me plaise de chasser, maintenant que papa n'y est plus. Mais ici, dans la forêt, où tout le monde vous connaît, où vous pourriez avoir autant de pères que la fille du régiment. Oui, j'ai plusieurs bons amis, mais il n'y en a pas un qui puisse, même pendant une heure, tenir la place de mon père. « C'est malheureux, dit le capitaine avec sympathie. Vous qui aimez tant la chasse, n'est-il pas vrai ?» Passionnément. Mais alors il est inouï que vous délaissiez ce plaisir. Et vous devez vous trouver bien triste lorsque vous allez seul dans la forêt. Je ne suis pas seul, j'ai mon cheval. Il ne compte certainement pas pour un compagnon. Mais si, je ne demande pas d'autre société maintenant. Violette est si excentrique, murmura Mrs. Tempest. Le capitaine Winstanley avait loué le cottage jusqu'au 1er mai. La fin d'avril amenait la clôture de la chasse. L'arrangement paraissait donc assez naturel. Il chassait sérieusement, il était simple, sans prétention aucune. Les malins seuls avaient attribué à son séjour un motif plus sérieux que l'amour de la chasse. Ses esprits fureteurs étaient parvenus à découvrir tout ce qui intéressait le capitaine Winstanley. La date de sa sortie du régiment, ses raisons ostensibles et cachées pour quitter l'armée, le montant de son revenu et le fond général de son caractère. On n'avait pas grand-chose à dire contre lui, il n'y avait pas d'histoire ténébreuse dans sa vie. Mais l'opinion dominante était qu'il voulait augmenter sa fortune, et que, pour y arriver, il ne serait pas trop scrupuleux sur les moyens. Les hommes trop scrupuleux étant fort rares, s'était classé le capitaine Winstanley avec la majorité. L'hiver était passé, les fleurs printanières se montraient déjà au milieu de la mousse et du gazon. De loin en loin, on commençait à découvrir une violette cachée sous un brin d'herbe, et les marronniers se couvraient de feuilles d'un vert tendre. On était au milieu de mars, et l'on n'avait pas encore entendu parler du retour de Roderick Vaudrey et des Dovedale. On avançait que le duc avait pris goût à la chasse italienne. Lady Mabel étudiait l'art. La duchesse était soupçonnée d'un penchant pour la religion romaine. Et Roderick était le cavalier pour ces dames et le compagnon du duc. « Pourquoi ne resterait-il pas avec eux ?» disait Mrs. Scobble, en buvant doucement son thé dans une réunion intime. Il n'a pas grand-chose à faire de son existence. C'est un jeune homme qui n'a aucun but à atteindre. Il est comme beaucoup de nos jeunes gens. Il ne s'intéresse guère à ces questions ardues qui agitent l'Église catholique jusqu'en ses fondements. Il n'a aucune mission. Je l'ai étudié et je sais que c'est une bonne nature, mais très futile. Il construirait une église si on le lui demandait. Et une fois l'église construite, il ne saurait pas dire si elle l'a été pour les juifs ou pour les gentils. Vixen restait assise dans un coin, ne disant rien. Elle prenait un plaisir amer à entendre parler de Roderick. Désormais, il n'était plus rien dans sa vie. Cela l'intéressait d'entendre ce qu'on pensait de lui et de sa nouvelle existence. « Si le duc ne les ramène pas bientôt, la duchesse se tournera vers Rome, » continua Mrs. Scobble. Depuis longtemps, elle y est portée. Les idées d'Ignatius ne sont pas assez élevées pour elle. » Le révérend Ignatius soupira. Il avait renoncé à s'élever plus haut. Il avait déjà bien assez de mal à ne pas froisser ses ouailles, population de forestiers, gens simples, tellement obstinés dans leur dévotion apprise, qu'il tenait pour une abomination digne de Baal une paire de chandeliers de cuivre sur l'autel, et qu'une image du Christ leur paraissait aussi odieuse que celle d'Astaroth. Braves gens qui lisaient leur liturgie comme ils l'avaient entendu dire dans leur enfance, et n'attendaient rien de M. Scobble que de ne pas s'écarter des vieilles traditions. Dans ce même mois de mars, un grand événement mit en émoi toute la population mondaine de la forêt. La fille aînée de Lord Southminster, Lady Almira Ringwood, devait épouser Sir Ponto Jones, l'opulent maître de forge. C'était une alliance entre l'aristocratie ancienne et la richesse moderne, qui fut considérée comme le plus grand progrès du siècle et mise en parallèle avec la découverte de la vapeur et de l'électricité. Le mariage devait être célébré en présence de 150 personnes de la famille et être suivi d'un grand bal auquel toutes les bonnes familles du comté seraient invitées aussi largement que possible, comme au beau temps des fées, tandis que les héros du roi parcouraient la ville, avertissant chacun qu'une grande fête était donnée à la cour, invitant tout le monde si bien que c'était à peine si quelques cendrillons étaient exclus. Lady Southminster se borna évidemment aux familles du comté, mais sa bienveillance lui fit admettre les curés, les médecins, les militaires et, parmi ces derniers, le capitaine. Mrs. Scobble déclara que ce grand bal serait une grande chose pour Violette. « Vous n'avez pas fait votre entrée dans le monde, ma chère, » dit-elle. « À Southminster, tout le monde vous verra, et comme probablement Lady Ellen Gowan vous prendra sous son égide, on vous verra dans les conditions les plus favorables. « Croyez-vous que cela me change d'être sous l'aile de Lady Ellen Gowan ?» demanda Vixen. « Certainement, du moins pour son cercle, » répondit Mrs. Scobble, qui se croyait autorisée en tout. Douce et active, ses amis la prenaient toujours pour confidente. C'était toujours à elle que l'on s'adressait pour une question embarrassante, voire même pour le choix d'une toilette. Elle connaissait la garde-robe de ses amis aussi bien que la sienne. « Vous ferez bien de mettre votre robe rose, » disait-elle à celle-ci. À une autre, elle donnait des conseils pour la composition d'un menu. « Ma chère, tout le monde mange du faisan à cette époque de l'année. Demandez à votre fournisseur de vous envoyer des pintades, c'est plus distingué. Et si vous avez une bombe glacée, je vous recommande la crème au café. La semaine dernière, on en a servi une à Ellen Gowan Park. » Vixen ne fit aucune observation sur le bal. Elle était jeune et aimait la valse. Elle aimait l'enivrement de la musique, l'éclat, le luxe d'un salon brillant de lumière. C'était, pour un moment, l'oubli de tout souci. Au bal de charité même, où elle s'était laissée conduire à contre-cœur, elle avait valsé avec plaisir. La nuit était belle, en dépit d'un vent assez violent, quand Mrs. Tempest et sa fille partirent pour Southminster. Les étoiles brillaient au ciel. Les grands arbres de la forêt secouaient leurs têtes de géants. Les buissons paraissaient tressaillir. Par moments, du fond de la forêt, s'élevait un cri perçant, pareil à celui d'un être demandant du secours. Mrs. Tempest avait offert de prendre Mrs. Scobble et le capitaine Winstanley dans sa voiture. Monsieur Scobble n'allait point au bal. Il avait en horreur ce genre de divertissement, et ce bal donné en carême lui était encore plus odieux. « Je n'y vais pas pour mon amusement, » disait Mrs. Scobble à son mari, « mais je veux voir Violette Tempest à son entrée dans le monde. Je veux voir l'impression qu'elle produira. Ce sera, je crois, la reine du bal. »« Elle est la reine de tout ce comté, » dit le pasteur. « Quelle fraîcheur, quel éclat, quelle admirable figure à peindre sur un vitrail. » « Elle est vraiment belle quand elle veut, » répondit sa femme, « mais elle a un singulier caractère, et quand elle n'aime pas les gens, elle a un je-ne-sais-quoi qui glace. » Étrange, n'est-ce pas, qu'elle ne puisse souffrir le capitaine Winstanley. « Ce serait une noble fille si elle subissait des influences plus intelligentes, » soupira le révérend Ignatius. « Son entourage est trop terre-à-terre, trop mondain. » Les chevaux, les chiens, une table surchargée de viande pendant le carême ou l'avent, une ignorance totale des particularités de nos services divins. Il est triste de voir des gens qu'on aime prendre si aveuglément des chemins vulgaires. Je suis contrarié, ma chère, que vous alliez à ce bal. « C'est pour Violette seulement que j'y vais, » répéta Mrs. Scobble. « Mrs. Tempest ne pensera qu'à sa toilette. Il n'y aura personne pour s'occuper de la chère enfant. » Un but aussi louable désarmait M. Scobble. Il ne put refuser son consentement, d'autant plus qu'en bien des circonstances, il avait pris l'habitude de laisser sa femme faire ce qu'elle voulait. Habitude qui, une fois prise, se perd difficilement. En conséquence, Mrs. Scobble fit ses préparatifs. C'était une femme économe, il ne lui fallut pas plus de 10 shillings de tulle noire et de boutons de rose pour relever la monochromie de sa robe de dîner de soie gris-argent. Après quoi, elle crut avoir créé une toilette digne des ateliers de Madame Élise. Sa confiance fut un peu ébranlée quand elle aperçut Mrs. Tempest et sa fille. La veuve avait une robe de velours noir garnie de points à l'aiguille et de nœuds de soie rouge, une toilette espagnole. On eût dit un portrait de Velasquez. Violette était en noir et or, avec des perles dans les cheveux. La route était magnifique. Mrs. Tempest et Mrs. Scobble étaient en belle humeur. C'est à peine si pendant le parcours, elles donnèrent au capitaine Winstanley le temps de placer un mot de ci de là. Violette regardait par la portière, elle admirait cette sombre et silencieuse forêt sur laquelle les étoiles versaient leur pâle lumière. L'idée du bal ne lui disait rien, et la conversation plus que futile de sa mère et de Mrs. Scobble la fatiguait et l'ennuyait. « J'espère que nous arriverons après les Ellangowan, » dit Mrs. Scobble quand ils eurent dépassé le village. Il vaudrait beaucoup mieux pour les débuts de Violette qu'elle fît partie du cercle Ellangowan. Je demande la permission de faire remarquer que Miss Tempest m'a promis la première valse, dit le capitaine Winstanley, et je ne veux pas céder ma place, fût-ce au plus noble du cercle Ellangowan. Évidemment, si Violette a promis, que de voitures ! Je crains qu'il n'y ait un encombrement. Un pareil inconvénient était à craindre. Une longue file de voitures s'était engagée dans un chemin étroit, bordé d'un côté par un fossé boueux et de l'autre par un mur de jardin. Comme Mrs. Scobble l'avait prévu, on ne pouvait plus avancer. Pendant un quart d'heure, on ne bougea pas. On n'entendait que les cris des cochers, tout le reste du chemin dut se faire au pas. La récompense fut à la hauteur de la peine, quand, au bout d'une longue avenue, la voiture s'arrêta devant la façade italienne de Southminster. Un portique de marbre blanc avec une longue ligne de fenêtres brillamment éclairées. « C'est splendide !» s'écria Vixen, charmante dans sa naïve admiration. Après la forêt, se trouver devant un palais semblable, on croirait être entré au pays des fées. « Et vous en serez la reine, ma reine !» dit Conrad Winstanley à voix basse. « Rappelez-vous, la première valse m'appartient. Quand le prince de Galles serait mon rival, je ne lui céderai pas. » En descendant de voiture, il lui retint la main dans la sienne. Elle la lui arracha avec colère. « J'ai bien envie de ne pas danser du tout, » dit-elle. « Pourquoi ? C'est payer trop cher ce plaisir que d'être obligé de le partager avec vous. À quelle école avez-vous appris la politesse, Miss Tempest ? « Si politesse veut dire civilité envers des gens que je méprise, je ne l'ai pas apprise, » riposta Vixen. Ils n'eurent pas le temps d'en dire davantage. Il lui avait enlevé son manteau, le tendit à une femme de service dont il reçut un ticket, puis, ensemble, ils se dirigèrent vers le buffet, où, de derrière une barricade de théières et de cafetières, une rangée de valets dévisageait les invités, ayant l'air de dire « « Si vous avez besoin de quelque chose, il vous faudra le demander. Nous sommes ici contre notre gré, et nous sommes bien étonnés que nos maîtres aient pu inviter de tels gens. Je me sens toujours intimidé devant un buffet quand il n'y a que des hommes pour vous servir, » murmura Mrs. Scobble. « Ils sont si hautains. » Lady Southminster se tenait dans une petite pièce à l'entrée du grand salon que terminait la galerie des tableaux. Comme dit un personnage de Thackeray, c'était un beau corps de femme. Vêtue de velours et couverte de diamants, elle recevait ses invités avec une gracieuse affabilité. Les Helen Gowan étaient arrivées et Lady Helen Gowan, excellente femme, fut toute disposée à prendre Violette sous sa protection lorsque Mrs. Scobell lui en parla. « Je lui trouverai bien assez de danseurs, » dit-elle. « Ah, elle part déjà avec le capitaine Winstanley. » Le capitaine n'avait pas perdu de temps pour réclamer sa valse. C'était la troisième au programme, et l'orchestre enlevait brillamment les inévitables traîneaux d'Offenbach avec leur accompagnement de clochettes et de coups de fouet. La vaste et haute galerie de peinture faisait une magnifique salle de bal, avec tous ses tableaux, un Rubens, un Titien, un splendide Paul Véronèse. Ici une calme madone contemplant tous ces mondains dans leur ivresse de plaisir, là Judith, de son bras musclé, tenant la tête du tyran au-dessus des danseurs. Plus loin, Philippe d'Espagne, dont le regard paraissait désapprouver ses fêtes en carême. Violette et le capitaine Winstanley gardèrent un froid silence pendant leur valse. Elle était vexée de s'être laissée emporter. Lui éprouvait une profonde colère. « Quand mon jour viendra-t-il? Quand me sera-t-il donné de faire incliner cette fière tête, de dompter cette volonté de fer? Ce sera bientôt. » Il était là de jouer la soumission et de cacher ses cartes. Ils ne s'arrêtèrent qu'aux derniers accords. « Quelle est cette jeune fille en toilette noire et or ?» demanda un jeune homme à Lady Helen Gowan. « Ce sont les deux meilleurs danseurs du bal. » La fin de la valse laissa le capitaine et sa danseuse au bout de la galerie qui donnait sur un vaste jardin d'hiver. Au milieu de la porte se tenait un jeune homme dont la vue fit battre bien fort le cœur de Violette. C'était Roderick Vaudrey. Seul, il regardait la salle de danse d'un air triste et ennuyé. « La valse était charmante, merci, » dit Vixen, en faisant au capitaine un léger salut. « Voulez-vous que je vous reconduise auprès de Mrs. Tempest ?» Roderick l'avait aperçue, et il s'avançait vers elle avec une gravité cérémonieuse. C'était du moins ce qu'elle pensa. Ce n'était plus là le Rory d'autrefois. Évidemment, le passé était bien loin. Elle ne devait plus l'appeler Rory, même dans sa pensée. Tout à coup, un souvenir la fit tressaillir. Elle se rappelait leur dernière entrevue dans son cabinet d'études, le jour des funérailles de son père. Ils étaient l'un près de l'autre, face à face. « Comment allez-vous ? » lui dit Roderick avec un élan affectueux. « Votre maman est ici, je présume. Vous ne l'avez pas vue ? Non, nous arrivons à l'instant. » Il voulait sans doute parler de la famille Dovedale, dont il était maintenant un des membres. « Je ne vous savais pas ici, » dit Vixen. « J'ignorais même que vous fussiez en Angleterre. Nous ne sommes de retour que d'hier, sans quoi je serais déjà allé à l'abbaye. Nous ne devions revenir que dans 3 semaines. Il y a quelques jours, la duchesse se mit en tête qu'elle devait assister au mariage de Lady Almira. Vous savez qu'il y a un peu de parenté entre les Ashbourne et les Southminster. » « Nous sommes donc partis et nous voici. »« J'en suis très heureuse, » répondit Vixen, ne sachant trop que dire. Puis, apercevant le capitaine Winstanley, qui se tenait immobile à ses côtés, l'air froissé, elle balbutia. « Pardon, je ne songeais pas que vous n'aviez jamais vu Monsieur Vaudrey. Le capitaine Winstanley, Monsieur Vaudrey. » Les deux gentlemen se firent le plus froid, le plus raide des saluts. Puis le capitaine offrit son bras à Violette, et elle, n'ayant aucune excuse pour le refuser, se laissa tranquillement entraîner loin de son vieil ami. Roderick n'essaya pas de la retenir. Vixen pensa que le changement opéré en lui ne pouvait pas être plus sensible. Oui, le Rory d'autrefois, son compagnon d'enfance, son camarade de jeu, l'ami de sa jeunesse si heureuse, si insouciante, ce Rory-là n'existait plus. « Voulez-vous venir regarder les cadeaux ?» demanda le capitaine Winstanley. « Quels cadeaux ?»« Les cadeaux de noces de Lady Almira. Ils sont exposés dans la bibliothèque. J'ai entendu dire qu'ils étaient splendides. Tout le monde va les voir. »« Maman aimerait aller voir, je crois, ainsi que Mrs. Scobell, » dit Violette. « Alors nous irons ensemble. » Ils trouvèrent ces deux dames assises sur un canapé, sous une gracieuse tête de greuze. Toutes deux, elles furent enchantées d'aller voir la corbeille du mariage. C'était une occupation. Mrs. Tempest avait pris la résolution d'abandonner ce soir-là jusqu'aux quadrilles. Il était malséant pour une veuve de danser les lanciers, surtout chez une de ses voisines.